Nouvelle-Calédonie, Kanaky, après le référendum, avant le référendum, où en est la marche vers l'indépendance. Troisième partie. Un an après un premier référendum d'autodétermination, au résultat bien plus serré qu'annoncé, et un an avant un second référendum, nous donnons la parole à une femme et quatre hommes engagés pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ce territoire du Pacifique Sud, encore aujourd'hui possession française. Dans ce troisième et dernier volet de notre émission, il sera plus précisément question de décolonisation et du rôle de l'État français qui voudrait se faire passer pour un arbitre, là où il est pourtant et a toujours été un acteur majeur.
Les Kanaks, c'est un peuple accueillant. Sauf que celui qui l'a accueilli s'est mal comporté, a trompé sa confiance. Vous connaissez l'histoire de la tasse de thé? Vous connaissez? Voilà.
Mais racontez-la.
Mais l'histoire de la tasse de thé, c'est le Kanak, le vieux Kanak qui accueille. Le premier, il invite à boire le thé. Ainsi arrive le deuxième, pareil. Et au bout de le quatrième, et j'ai dit, mais si on votait pour savoir qui va devenir le propriétaire des lieux. Et ainsi, les trois qui ont été accueillis ont mis en minorité celui qui les a accueillis.
Aloysio Sacco, élu indépendantiste.
C'est ça, c'est cet état d'esprit. Vous voyez? C'est ça qu'il faut combattre. Ce que les Kanaks n'ont pas eu le retour qu'ils souhaitaient. On a trompé leur confiance. On a profité de son hospitalité. On a profité de sa gentillesse. C'est pas les Blancs, c'est pas un pays des Blancs ici. C'est un pays où vivent une grande majorité des Océaniens. Les Kanaks, plus les 30% des Océaniens là, ben, on dépasse les 60%. Et donc, il faut mettre un modèle qui soit adapté à ces cultures. On ne peut pas faire ici un petit Paris ou une petite France. Alors que vous avez la majeure partie de la population, elle est océanienne. Mais c'est tout ça qu'il faut corriger. Quand tu entends, allez, il faut nous rassembler parce qu'il ne faut pas qu'un Kanak dirige. Il faut nous unir parce qu'il ne faut pas qu'un Kanak devienne député. Il faut unir nos voix parce qu'il ne faut pas qu'un Kanak devienne le président du Congrès. Mais attends. Pensez que, à l'heure où on parle là, ces gens d'état d'esprit et porteurs d'espoir, mais c'est porteur de la haine, de la discrimination, du racisme. Mais ce n'est pas les Kanaks qui portent ça.
Un peuple premier qui est en minorité aujourd'hui, hein, donc néanmoins plus de 40% au résultat.
Nadège Vakenta-Lefebvre, élue indépendantiste.
Qui a été reconnue, hein, je le dis quand même, dans les textes en tout cas, hein, par le peuple français comme étant les premiers, ici le peuple premier dans ce pays. Et rien que ça, c'est redonner la dignité aussi. A quand même un peuple qui a souffert. Et vous savez, quand je dis ça, moi, je suis une descendante de bagnards. Je veux dire, quelque part, je ne peux pas m'associer à eux et je me garderai bien de parler à la place des Kanaks parce que j'ai trop le respect de ces gens-là pour cela. Mais après, à mon niveau, à moi, c'est un peu les mêmes choses que je vis. Mais on a besoin d'être rétabli dans notre identité, dans notre dignité. Et les Kanaks, quand ils réclament, qu'on leur reconnaisse ce qui leur appartient de droit, mais il faut qu'on le comprenne, ça. Donc, il ne reste plus qu'à convaincre une certaine marge de nos citoyens caldoches. Et je pense que ça va le faire. Mais complètement. Moi, c'est au-delà, hein, de tout. Au-delà du projet économique. comporte, parce qu'il nous a fallu faire la démonstration aussi que les choses étaient possibles, puisqu'on agitait l'épouvantail de dire « vous ne mangerez plus, vous allez mourir de faim, ça va être terrible, ça va être le chaos, gardez le Vanuatu ». On nous a servi à toutes les sauces. Hein. Moi, plus que cela, ce qui m'a menée ici, là où je suis, ma famille aussi, mon grand-père, mes parents, c'est la reconnaissance du peuple kanak d'abord, sa légitimité à exiger son indépendance et sa liberté dans son propre pays. C'est juste ça.
Rien n'a jamais été facilité ni donné aux Kanaks au nom d'un bon sentiment et au nom d'une humanité, reconnue, reconnaissante. Ça n'a jamais été le cas.
John Passa, sociologue.
C'est les Kanaks qui sont allés chercher tout ça. C'est les Kanaks qui sont allés chercher les accords de Matignon. C'est les Kanaks qui sont allés chercher les accords de Nouméa. C'est les Kanaks qui sont toujours à l'origine des bouleversements dans la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé de passer par des révoltes, par des violences, pour pouvoir faire admettre qu'il y a une réalité et qu'il faut l'intégrer. C'est pour ça qu'on dit que l'idée de ceux qui ont toujours fait bouger le pays dans un sens ou dans l'autre. Ils ont toujours fait bouger le pays, ça a toujours été les Kanaks. Mais un jeune, il me dira, mais c'est normal, c'est chez nous. Chez nous, il faut qu'on arrive à retrouver la place, à réoccuper la place qui nous revient. Donc ça passe forcément par des discussions, ça forcément par des débats. Mais c'est pas un pays où la discussion et le débat est quelque chose d'apaisé. Ça se passe toujours par des affrontements, par des confrontations, par des choses, par des violences sur des points, sur des violences sur l'école, sur des violences dans la rue, par ces violences-là qui rappellent les difficultés, qui rappellent le positionnement des uns, de la population européenne, qui continue à dénigrer. Et pas la population européenne qui sont les victimes de l'histoire, pas les caldoges. Une population européenne qui est arrivée ici il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que les gens, nous on est colonisés, et eux ils découvrent le statut de colon. C'est une grande découverte, le statut de colon. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, on peut tout se permettre, parce qu'on est loin de la France. C'est-à-dire que la mentalité Jules Ferry, elle n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que c'est une part d'inconscient des gens, quand ils arrivent ici, ça s'exprime. Les quelques personnes qui vont commencer à penser, poser l'altérité à leur faible niveau, au niveau de leur travail, quand ils vont commencer à se poser les questions de cette altérité, de leur construction d'enfants issus de milieux ouvriers ou issus de familles de la classe moyenne française qui viennent travailler ici parce que c'est des réseaux. Et quand ils découvrent le prix que ça leur coûte de devoir renier ce qu'ils sont au nom d'un vivre en Calédonie qui est de vivre dans quelque chose d'artificiel mais qui pulse, qui te renforce dans ce que tu es, il y a des jeunes qui arrêtent les frais parce qu'ils se disent non, je ne peux pas cautionner ça, c'est pas possible. En France, je ne me le serais pas permis. Des gens qui te disent ça et qui après ici disent mais c'est quand même bien, c'est cool.
Nous, on ne va pas se sauver d'ici. Nous, on ne va pas se sauver. On n'a pas d'autre endroit où aller.
Emmanuel Tchibaou, directeur de l'Agence de développement de la culture Kanak.
Peut-être les Français peuvent se sauver en Espagne, ou en Italie, ou en Suisse, ou si jamais il y a des gens qui vont habiter chez eux. Nous, on va mourir ici. Et puis, je pense aussi, les Calédoniens qui habitent ici, ce pays, ils n'ont pas l'intention de se sauver. Le temps, il joue pour nous si on garde la foi que demain, ça peut être meilleur. Mais si on n'a pas confiance dans notre pays, si on n'a pas confiance dans les hommes, on ne peut pas sereinement se projeter. On pourrait aborder les mouvements de libération à l'époque des années 60 et 50, depuis Sékou Touré jusqu'à Bourguiba ou je sais pas les Égyptiens ou les Africains ou même en Amérique du Sud. On est arrivé, on est sur la fin de la comète, on est sur de ces indépendances là. Et ce qui est d'une certaine manière, je dirais que ça joue à notre avantage, c'est que les chemins par lesquels les autres mouvements de libération sont passés et ont traversé cette phase de reconnaissance, la création d'un État souverain, et puis après les mécanismes de domination qu'ils ont perduré par des accords de coopération, par exemple ce qu'a mis en place le système qu'on a nommé France-Afrique, de la France avec ses anciens pays colonisés. Nous, on a vu les travers de ces indépendances immédiates aussi. Et que la stratégie de se donner 10 ans pour former des cadres de 88 jusqu'à 98, c'était aussi de se dire si la France est responsable de la colonisation, elle doit aussi avoir une responsabilité dans la décolonisation. Et ce temps-là, c'est aussi ce temps pour que ce chemin il se fasse dans l'esprit de nos dirigeants, qu'ils soient indépendantistes, qu'ils soient loyalistes ou qu'ils soient simplement de l'État français. Donc je veux dire par là que la question coloniale ne doit pas être juste une question d'un débat local, argumenté entre les loyalistes, les indépendantistes et au-dessus, évanescent un État qui se voudrait, sans parti pris de cette situation. La Calédonie est française parce que la France est venue ici. Nous, on n'est pas allé coloniser la France. C'est la France qui est venue chez nous. On n'a pas demandé notre avis. On a fait signer les grands-pères avec les fusils sur la tempe, quoi. Sinon...
La France a toujours menti. La France nous a toujours trompés sur ses véritables intentions. La colonisation des peuplements, c'est bien la France. C'est pour mettre en minorité les Kanaks. C'est pour éviter que les Kanaks s'entendent avec les Océaniens et qu'ils puissent mettre la France dehors. Vous voyez, la France est attachée à ce pays. La France n'a pas envie de quitter la Nouvelle-Calédonie. À partir de là, tout ce qu'il fait, il n'y a rien de sincère. Tout est dans le calcul. Vous pensez que si la France n'avait pas envie de rester là, n'avait aucun intérêt, qu'est-ce qu'il va faire perdre son temps à un pays à 22 000 kilomètres? Voilà. La France n'a pas envie de partir. La France a des intérêts ici, géopolitiques. La France a besoin de la Nouvelle-Calédonie.
La France, je crois que c'est le troisième État qui a la plus grande superficie marine. Ce n'est pas à cause des côtes normandes, hein, c'est à cause des Outre-mer. Et la Polynésie et la Calédonie se partagent pratiquement la moitié du Pacifique. Et puis un taux de croissance qui dépasse celui de la France. C'est quand même le signe que la France a tout un intérêt de garder la Calédonie dans son giron. Donc c'est aussi en termes de rayonnement géostratégique des enjeux qui dépassent simplement le fait de reconnaître l'identité kanak. C'est aussi démonter tout un mécanisme de pensée qui est articulé autour de l'empire, je ne veux pas dire l'empire colonial français, parce que c'est un peu désuet comme terme.
L'État, il ne doit pas se positionner en arbitre. L'État, il n'est pas un État colonial n'est pas un État arbitre. C'est un État colonial, c'est un acteur, il fait partie. C'est en son nom que la Calédonie a été colonisée, ce n'est pas au nom des populations européennes qui sont arrivées. Ils sont arrivés parce que c'est une colonie. Le problème de la réflexion politique en Calédonie, c'est qu'on inverse toujours. On est toujours en train d'embrouiller les relations entre les différentes personnes, entre les différents acteurs de la Nouvelle-Calédonie. Quand l'État dit qu'il faut discuter entre vous et puis nous, on est là pour arbitrer, c'est avoir le beau rôle.
Moi, j'ai toujours dit, il faut que la France affiche véritablement sa vision concernant la Nouvelle-Calédonie. Et on discute. je veux rester ici pour telle raison, telle raison, telle raison. Voilà. Les Kanaks disent, je veux gouverner mon pays. Avec toi, on va redéfinir de nouveaux liens de partenariat. Et ça va être des liens librement consentis. Pas des liens dominants-dominés. Mais c'est ça que j'en veux à la France. Parce qu'il manque de sincérité. Comment on peut dire qu'on est au-dessus du lot? Alors que vous avez des présidents de la République qui disent « Ma préférence, c'est que la Calédonie soit française. » La neutralité, elle est où, là?
C'est François Fanon qui disait qu'un État colonial n'a pas vocation à décoloniser. Ça saurait si la France avait su décoloniser. On ne serait pas là à perdre du temps. Si la France avait décolonisé, sans passer par les armes, on aurait la clé d'un certain nombre de choses. Mais là, la France, elle a toujours voulu, elle veut conserver, même si ça n'a plus de sens maintenant de conserver des entités en outre-mer, en tout cas pour la Calédonie, ça n'a plus de sens. Maintenant, on est dans des partenariats, on est dans des accords bilatéraux, on est dans des choses comme ça. On n'est plus dans un rapport qui est haut de domination. Et l'État, il teste. C'est-à-dire que l'État aurait bien aimé, même si elle ne le dit pas, quand elle a eu le résultat, le non l'a emporté, elle est contente, mais elle est aussi déçue comme les non-indépendantistes. Elle est déçue de ne pas avoir fait plus de non. Et ça, je pense que c'est aussi à l'État de reprendre la main, de dire, ben, je ne suis pas arbitre, je suis acteur. Donc c'est une discussion. Mais pour le moment, ce n'est pas comme ça que l'État voit sa position, elle se voit arbitre. C'est sûr que là, on n'avancera pas beaucoup.
Certains élus indépendantistes ont dit très clairement qu'ils ont dit au Premier ministre, mais Monsieur le Premier ministre, imaginez qu'il n'y avait pas de deuxième référendum. Qu'est-ce qui se passerait ce soir?
Samuel Gorouna, économiste.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Pour les uns, pour les autres, c'était un galop d'essai. Et puis voilà, c'est pas la souveraineté, ou en tout cas l'espoir de souveraineté pour la moitié de la population, puisque enfin, la population concernée, évidemment, c'est le corps électoral désigné, pour quasiment la moitié, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui, effectivement, d'un point de vue des loyalistes, enfin loyalistes, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas des non-indépendantistes, une partie des leaders ont dit clairement que le lendemain, il faut annuler tous les autres référendums parce que maintenant, c'est définitif, c'est dans la France, etc. Bon, je ne vais pas citer les noms. Et que, du coup, le référendum en question va purger la question d'indépendance. Pour le terme évidemment très malheureux et pas approprié, etc. Mais pour certains, c'était ça.
La suite, elle est ce qui a été dit par. C'est inscrit dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire que les gens, ils vont aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Les gens qui disent qu'il y a de l'incertitude, les gens qui disent qu'ils vont alimenter une forme de peur sur l'incertitude institutionnelle, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui sont incapables de produire une réponse sur l'avenir de la société calédonienne, c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie de Kanaki. Alors, c'est des gens qui sont dans l'incapacité d'apporter des réponses. Donc ils vont jouer sur la peur pour dire oui, il y a ceci, il y a cela, on peut. Non, non. Il faut aller jusqu'au bout de l'accord de Nouméa, il faut faire les référendums, et après on discute.
Après, moi, j'ai envie de dire que de toute façon, c'était la parole donnée, ça. 3 référendums. Donc, il y a un respect de ce qui a été décidé par des personnes qui ne sont plus avec nous aussi. Il faut le faire, il faut y aller. Ça, c'était l'accord de Nouméa. Il faut aller à son terme. Et le terme, c'est 2 autres référendums. Et l'indépendance, ça se construira à partir du moment où les gens l'auront voté. Moi, je pense que c'est inéluctable. Je pense qu'on y arrivera, ça ne sera pas 2020, ça sera 2022, ça sera après. Peu importe. La tendance inverse, elle ne peut plus s'amorcer. Maintenant, ce chiffre, il va aller en grandissant. Parce que je crois que la population calédonienne aujourd'hui, peut-être que, je disais tout à l'heure, on a une opportunité, les gens comprennent mieux, ont moins peur, parce qu'on a essayé de dédiaboliser aussi. Et heureusement, il y a toutes ces démarches, la démarche unie, vous voyez, de laquelle je fais partie. Moi, j'ai eu à témoigner et à intervenir pendant la campagne électorale. Et il y a beaucoup de personnes qui sont de droite plutôt, mais qui m'ont dit, nous, quand on t'entend, eh ben, on a envie d'y aller. Je veux dire, il faut qu'on arrête de se faire peur dans ce pays. Vous voyez, ce pays, il est magnifique. Il y fait bon vivre. Tout le monde y a sa place. Moi, j'en suis la preuve vivante. Hein. C'est le partage, le destin commun. Moi, j'ai toujours connu que ça. Je veux dire, on en parle aujourd'hui comme si que, on avait découvert quelque chose. Mais rien du tout. Nous, on a connu que ça. Moi, j'ai grandi dans le destin commun. Je veux dire, c'est notre vie à nous. Ça, on a été éduqués comme ça.
Le vote du oui, c'est à un moment donné que le système colonial qui continue à perdurer en Canadie s'arrête. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas une, les Canadiens comme on le pensait majoritairement, mais une petite partie de la population non-Canac européenne va aussi partager. C'est pour eux, le système a assez duré. À un moment donné, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de rapport dans ce pays. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, on n'est pas arrivé, mais l'élection référendaire a donné un signal fort. C'est-à-dire que si on ne change pas de système, ça ne va pas continuer comme ça. Parce que les choses vont se radicaliser et crisper. Et c'est là où on, maintenant on a le silence des gens non indépendantistes. Ils ont pas tellement, ils étaient tellement sûrs d'eux que maintenant ils se retrouvent en difficulté. Parce que ce n'est pas les grands gagnants. Mathématiquement, oui, ils sont gagnants. Mais politiquement et socialement et en termes de projection sur l'avenir, ce n'est pas les gagnants.
C'est un pays où vivent plusieurs communautés. C'est rare dans le monde que tu trouves des pays comme ça. C'est une richesse. Mais profitons-en de cette richesse pour construire un modèle où tout le monde se sente bien, que les Kanaks reprend sa part à laquelle il a droit, à sa culture, à son identité, qu'on a gommé pendant de nombreuses années. Redonnons-lui ce dont il a droit, le peuple kanak. Quant aux autres, il a toute sa place qu'il faut. Il est aussi indispensable dans ce dispositif, dans ce peuple en construction. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, qu'on peut se passer des Européens ou qu'on peut se passer des Wallisiens? C'est pas possible. Tout le monde est indispensable. Et on a besoin de tout le monde dans cette construction du vivre ensemble et du nouveau pays. C'est ce que Jean-Marie Gibaou disait, le pari sur l'intelligence, c'est ça. C'est que les autres vont finir par comprendre que leurs intérêts, c'est là. Et ça commence. Et on est sur une courbe ascendante. Et ça va s'amplifier de plus en plus. Ainsi, on va gommer à tout jamais ce stress qui, périodiquement, chaque élection, nous clive. Indépendance contre l'indépendance. Il nous faut fermer cette parenthèse-là.
Pour moi, il n'y a pas de peur à avoir. Je pense que la peur est arrivée avec les résultats. C'est là où les gens, parce que les gens se rendent bien compte aussi que tous les Kanaks n'ont pas voté. Et c'est là où ils réalisent que ça risque d'être chaud au deuxième référendum. Mais en même temps, les gens, ils n'ont pas eu l'intelligence de dire mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce qu'ils ne proposent rien. C'est là la difficulté. C'est là où ça génère de l'inquiétude. C'est-à-dire que tant que tu n'apportes pas de discussion, tu n'apportes pas de porte de sortie, tu n'apportes pas de réponse, tu n'apportes pas d'arguments pour essayer de crever l'abcès, tant que tu n'apportes pas, ça veut dire que pendant toutes ces années, tu n'étais pas là pour apporter. Tu étais là pour maintenir un statu quo en ta faveur. La déflagration du 4 novembre, les gens, ils ne se sont pas remis parce qu'on leur a rappelé, ils sont où ici? Et ça, les gens, ils n'ont pas. Les gens, ils n'ont pas réalisé. Ils pensaient que tout est acquis et que tout peut rester comme ça sans, et qu'on peut même en rajouter une couche. Le 4 novembre leur a rappelé la réalité d'ici. C'est-à-dire que vous profitez d'un système, vous vous retrouvez dans ce système-là. Mais on vous rappelle quand même que ici, la Calédonie, ce n'est pas Nouméa. La Calédonie, c'est de l'île des Pins à Belep en passant par les loyautés. Et si vous avez tendance à oublier parce que vous débarquez de temps tout temps pour aller à Nouméa, ben on va vous le rappeler. Que ce soit par les urnes ou que ce soit par des actes de violence. Donc ça pose réellement la question de comment on envisage l'avenir ici, comment on envisage les choses, comment on essaie de rendre passer par une reconnaissance réelle et non pas folklorique ou symbolique, ça permet de résoudre un certain nombre de choses. Mais ça, c'est pas au Canada de faire cet effort-là, c'est aux autres.
Même si les deux autres référendums sont perdus par les indépendantistes, donc évidemment ça se rapproche. Je pense que d'un point de vue de tendance, c'est plus un rapprochement qu'un écart plus important entre les deux. Mais ça, même après trois noms, si c'est deux autres noms, la question ne s'arrêtera pas là. Les indépendantistes ont dit le soir, enfin, quand ils avaient le Premier ministre, ils ont dit et répété, dans certains pays, il y a eu 6-7 référendums. Donc c'est pas, l'histoire ne prendra pas fin là. S'il y a plus de 80% de la population kanak qui continue d'être indépendantiste, c'est illusoire de penser que ça s'arrêtera là. C'est illusoire. C'est illusoire de penser que les indépendantistes vont arrêter d'être indépendantistes, et les kanaks en particulier, puisque ce sont les kanaks qui sont la très grosse majorité des indépendantistes, ce sont les kanaks. Ils sont plus de 80% à voter pour l'indépendance, ça ne s'arrêtera pas ni au deuxième ni au troisième référendum. Ça c'est sûr.
Si la France n'a pas été en capacité de se repenser là-bas, de refondre son projet de société, mais qu'elle nous laisse le droit de repenser, nous, notre projet de société ici avec les Calédoniens. Déjà qu'on nous laisse gérer notre petite île avec notre patrimoine minier, nos identités partagées, une école qui nous correspond, une nouvelle architecture peut-être... des nouveaux plans d'urbanisme dans lesquels on se reconnaît. Là, le danger, c'est qu'on nous occulte ces velléités-là. Et c'est là où je dis que ce n'est pas faire preuve de grandeur et de maturité pour la France. Malgré ce que l'on peut dire, le fait que la Charte des Nations Unies, elle reconnaisse le droit des peuples autochtones à accéder à l'autodétermination, et que nous, on a ouvert ce droit aux victimes de l'histoire, enfin aux Calédoniens en 82, ben c'est ça le principe, c'est les principes de la coutume. Reconnais-moi pour que je te reconnaisse. Mais ce qui s'est passé en 82, ce pourquoi il y a eu les événements, c'est que si tu ne me reconnais pas, j'irai par la force chercher ce droit. C'est ça qui s'est passé. En 86, 87, ça a été reconnu à l'ONU. La Calédonie est un pays colonisé et qui doit être décolonisé. Alors, c'est chaud quand même de décoloniser tout en restant sous la joug de l'État colonial. C'est ce que les Français pensent. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'est une nouvelle forme de... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça n'existe pas encore pour moi dans mon esprit. Peut-être que c'est quelque chose à inventer. C'est à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre décolonisation qui ne se soit fait qu'en dehors de l'État, en sortant de l'État colonial. Enfin, le propos même de la construction décolonisation, c'est qu'il y a des devant qui veut dire qu'on sort de la colonisation. Et si la colonisation est instaurée par l'État colonial, ça va... ou bien il faut changer, il faut dire... on accède à la pleine souveraineté. Et après, nous, on se donne le choix de signer des partenariats avec la France et puis de dire ben, on aime bien quand vous nous fouettez, allez, on va vous racheter un nouveau fouet. C'est un peu maso comme concept de colonisation de la France.
Sacré Kanaki mon pays, Kanaki mon pays, Kanaki mon pays.
la troisième et dernière partie de Nouvelle-Calédonie Kanaky, après le référendum, avant le référendum, où en est la marche vers l'indépendance. Avec Nadège Vakentaler-Fèvre, John Passa, Emmanuel Chibaou, Samuel Gorouna et Aloisio Sacco. Ces entretiens ont été enregistrés entre janvier et mars 2019. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette émission, émission dont une version plus compacte a été diffusée au printemps dernier dans le programme Bras Zéro de Radio Canal Sud. N'oublions pas la Nouvelle-Calédonie. Là-bas se joue un combat anticolonial essentiel dans lequel nous, Françaises et Français, avons un rôle à jouer.
Radio créative,
hors du commun.